Welcome everybody, bienvenue dans ce 9e épisode des Clés de la Maison Blanche et aujourd'hui on vous parle d'un grand rendez-vous dans les primaires d'une élection américaine, ça s'appelle le Super Tuesday. Lionel.
Salut Thomas.
Bon, ce mardi 5 mars, c'est un jour important dans cette course à la Maison Blanche.
C'est super.
Et c'est super, bah c'est le super mardi, le super Tuesday, donc le jour des primaires le plus important. On va voter dans 15 États, plus d'un tiers des délégués qui sont en jeu. Et cette année, bon, on aurait envie de le teaser, mais on peut pas.
Oui, on peut pas dire qu'il va y avoir un suspense énorme, mais bon, ça reste un événement important et incontournable.
Bon, alors ça va être l'occasion de faire un gros plan sur cette particularité américaine, donc depuis des décennies. On va aussi parler de Nikki Haley, pourquoi elle reste dans la course, on va vous répondre dans cet épisode, et de la mainmise encore plus forte de Donald Trump sur le parti républicain qui veut en faire une affaire de famille, tu nous parleras de ça tout à l'heure. Mais donc d'abord, c'est quoi ce Super Tuesday, pourquoi ça existe et depuis combien de temps?
Alors ça remonte en fait aux années 80. Au début en fait, le nom Super Tuesday c'était plutôt utilisé pour décrire le dernier mardi de la saison des primaires, mais on était plutôt au mois de juin, lorsqu'il y avait un groupe d'États, dont la Californie, le New Jersey, qui votaient. Et puis la campagne de 1984 en fait donne le point de départ du Super Tuesday comme on le connaît aujourd'hui. 9 États étaient en jeu le 13 mars 1984 et côté démocrate, ça se jouait entre Walter Mondale et Gary Hart pour l'investiture. Et c'est Walter Mondale qui l'a emporté avant de se faire laminer par Ronald Reagan. Et 4 ans plus tard, l'événement a été baptisé Southern Super Tuesday. Et là, c'est 21 États, principalement du Sud, qui ont organisé l'élection le 8 mars. Mais la tradition était née et bien lancée.
Et alors, est-ce que cette journée du Super Mardi, elle a été toujours décisive dans les primaires?
Alors, il y a un peu de tout, hein, quand on reprend l'historique, il y a des victoires par chaos, des points de bascule, ou alors du statu quo. La légende, entre guillemets, du Super Tuesday, ce qui en a fait une journée, on va dire, à historique du point de vue politique, date de 1992. Loin d'être favori après les premières primaires, un jeune gouverneur de l'Arkansas, Bill Clinton, a assommé la concurrence lors de ce Super Tuesday. Et voilà, c'était parti pour lui. C'était le grand début de sa carrière et évidemment son chemin vers la Maison Blanche. En 2008, toujours côté démocrate, le Super Mardi avait entretenu le suspense entre Hillary Clinton et Barack Obama. Il a fallu aller encore plus loin pour désigner les vainqueurs. Les deux candidats avaient terminé la journée avec quasiment le même nombre de délégués, 834 contre 847. Et c'est vrai que quand on a un vainqueur assez tôt, c'est-à-dire à l'issue du Super Tuesday, ce qui arrive, ça a pour avantage, pour un parti, de donner du temps à ce parti pour organiser l'élection présidentielle, la campagne pour l'élection présidentielle. Et puis en 2016, là, le Parti démocrate avait tourné à l'avantage d'Hillary Clinton, ce qui mettait fin aux espoirs de Bernie Sanders, mais rapport à ce que je disais à l'instant, en fait, le duel avait été disputé jusqu'au scrutin du mois de juin parce que Bernie Sanders ne voulait pas abandonner. Et c'était tout à fait son droit d'ailleurs, mais ça avait été un handicap, l'un des handicaps d'Hillary Clinton, de ne pas avoir beaucoup de temps pour se préparer, pour se lancer dans la course dans la dernière ligne droite.
Et Bernie Sanders, donc, qui aura été un petit peu tué par les Super Tuesday, parce qu'en 2020 aussi, c'est là où Joe Biden a clairement pris le dessus. Quand il avait gagné, on l'avait dit, en Caroline du Sud. Et derrière, il a, on va dire, transformé l'essai pendant le Super Tuesday. Alors, j'en profite aussi pour te demander pourquoi est-ce que les élections sont organisées un mardi aux États-Unis, parce que je me rappelle qu'il y a plein de gens qui m'avaient posé cette question en réalité. Bon, la France, c'est le dimanche et les États-Unis, c'est le mardi. C'est quoi?
Oui, et puis on va dire que la France, c'est un peu plus logique quand même d'organiser des élections le dimanche, en tout cas le week-end, les gens sont plus disponibles, la plupart ne travaillent pas, ou en tout cas peuvent trouver un moment. Le mardi, voilà, on est quand même au beau milieu de la semaine. Ça fait partie des bizarreries du système électoral, il y en a beaucoup, on le dit souvent dans ce podcast, il y a quand même beaucoup de choses qui sont datées dans le système électoral américain. Le collège électoral, les grands électeurs aussi, on peut se dire que ça pourrait... tout ça pourrait être revu. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut remonter le temps. Hein, c'est-à-dire que les rédacteurs de la Constitution, celle de 1787, en fait, n'avaient pas vraiment tranché sur ce point. Ce qui était dit, la seule condition, c'était que le scrutin devait se tenir sur une période de 34 jours avant le premier mercredi décembre. Ce jour-là, c'est le jour, et d'ailleurs c'est toujours le cas, d'ailleurs, c'est le jour où les grands électeurs du collège électoral se réunissent pour valider l'élection présidentielle, sauf la dernière fois, enfin ils sont réunis, mais Donald Trump a voulu faire barrage à ce système. Bon, ça a été un peu le bazar à l'époque, donc en 1845, on décide d'un jour unique de scrutin sur tout le territoire, et on opte pour début novembre. Alors pourquoi début novembre ? On est dans une société agraire à l'époque, hein, et les moissons sont terminées, la neige n'a pas encore rendu les routes impraticables, donc c'est pour ça qu'on décide de cette période. Alors le jour, pourquoi le mardi ? Début novembre, d'accord, mais pourquoi le mardi ? On aurait pu faire ça un dimanche. En fait, ça pouvait pas être, selon eux, le week-end, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on se repose, et c'était observé par beaucoup de chrétiens à l'époque. Il faut aussi se dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sociétés. Et les bureaux de vote sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, évidemment. Et évidemment aussi, eh ben, les moyens de transport, ce n'est pas les mêmes. Donc, pour les fermiers, par exemple, qui étaient très loin des villes, c'est-à-dire des bureaux de vote, eh ben, ça pouvait prendre du temps, ça pouvait prendre plusieurs jours. Et les Américains qui habitaient au fin fond de la Pennsylvanie, du Texas, eh ben, il fallait parfois, effectivement, au moins deux jours pour aller au bureau de vote. Donc, le mercredi étant le jour du marché, c'était non aussi, bah ça laissait pas beaucoup de choix. Et c'est pour ça que bah on a décidé que c'était le mardi, et depuis ça ne bouge pas.
Et donc ça ne change pas, personne n'a demandé à ce qu'il y ait un petit arrangement, parce que c'est vrai qu'on s'imagine quand même la journée du mardi, on va sortir du travail pour aller voter, ou alors je me dis à partir de 17h-18h il doit y avoir une queue folle.
Oui, c'est pas pratique. Alors les Américains, mais c'est ce qui explique aussi que le taux de participation est assez faible aux États-Unis. Hein. Quand on est à 50%, 55%, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup plus faible qu'en France et dans beaucoup de pays européens. C'est l'une des explications. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait pas mal quand même qu'ils se penchent là-dessus. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est aux États-Unis de gérer ça. On l'a un peu vu sur l'explication historique, ça avait du sens au milieu du 19e siècle. Bon, maintenant on est en 2024. Et c'est vrai que l'électeur maintenant bah, doit trouver du temps pour se rendre au bureau de vote, comme tu le disais, faire la queue, parfois aux heures de pointe. Alors bah, du coup, certains se disent, bon, ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc le débat revient régulièrement, mais personne n'ose s'y attaquer vraiment.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aux États-Unis, le vote à distance est anticipé. Est autorisé, à la différence de la France, par exemple, à la présidentielle, on ne voterait pas deux mois avant, ce qui est possible aux États-Unis.
Ce qui est possible. Le problème aussi, c'est que le vote à distance, le vote par procuration, c'est aussi ce qui nourrit pas mal de conspirations et tous les problèmes qu'on a vus lors des dernières élections et qu'on reverra sans doute, notamment si Donald Trump perd, il va encore contester, notamment à cause de ses votes à distance.
Alors, retour donc à notre Super Tuesday de 2024 cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il en est ? Quel est le contexte là ?
Alors, bon, niveau résultat, la réponse peut être assez rapide, hein, que ce soit côté républicain comme côté démocrate. Alors, côté démocrate encore plus parce que ce sera Joe Biden. Côté républicain, il n'y aura pas non plus de grandes surprises. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, on aimerait vous dire attention, vous allez voir, ne vous couchez pas jusqu'à 3h du matin parce que ça va être incroyable. Non. Trump dispose d'un avantage. Il a gagné pour l'instant toutes les primaires, tous les caucus. Donc, il a un avantage considérable sur la base républicaine. En fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'électeurs indépendants, conservateurs, de républicains très modérés dans les états du Super Tuesday pour que ça bascule pour Nikki Haley, mais ce sera sans doute pas suffisant. Un exemple avec le New Hampshire, hein, seul 50%, le New Hampshire qui a été le deuxième donc à voter, seul 50% des électeurs des primaires de cet état se sont identifiés comme républicains, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'indépendants. Mais elle a quand même tout de même perdu de 11 points. Donc, il est évident qu'un candidat qui postule pour être candidat républicain doit avant tout avoir une base républicaine très solide. Sinon, ça fonctionne pas. Et aucun républicain n'est devenu le candidat du parti depuis que le Super Tuesday sans s'imposer ce jour-là. Donc, c'est vrai que a priori, c'est un boulevard pour Donald Trump. Autre point important qui nous fait dire que le débat va être vite plié, la plupart des États attribuent leurs délégués selon le principe de winner take all, c'est-à-dire le gagnant remporte tout, c'est-à-dire que bah, vous avez plus de 50% des suffrages, et s'il y a 25 délégués, bah, vous remportez les 25, les 25 délégués. En fait, les Républicains utilisent surtout cette méthode parce que ça permet d'en finir rapidement avec les primaires, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ça permet donc de se concentrer tout de suite sur la campagne contre le candidat démocrate. Et puis, bah, les démocrates, eux, parfois, ça dépend des États. Certains ont ce système de winner take all, mais ils veulent un peu plus égalitaire, donc ils préfèrent attribuer des délégués à la proportionnelle. C'est aussi pour ça qu'on a des duels qui vont un petit peu plus loin. Alors, on va changer de personne qui questionne. C'est moi qui vais te questionner à présent, Thomas. Tu voulais revenir sur l'adversaire hein, de Donald Trump. Bah, il n'y en a qu'une, hein, c'est Nikki Haley. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Donald Trump a la partie facile. S'il y avait eu 4, 5 adversaires, il y aurait sans doute un peu plus de suspense. Mais là, il n'y a plus qu'elle. Et pourquoi ? Alors, question que beaucoup de monde se pose, pourquoi est-ce qu'elle continue ?
Bah, c'est la vraie grande question finalement de cette primaire républicaine. Que fait encore Nikki Haley dans cette course ? Plus personne aux États-Unis clairement ne croit en une victoire de Nikki Haley après le 6 sur 6 de Trump dans les premiers caucus et primaires. Elle s'est fait en plus écraser dans son état, hein, la Caroline du Sud, on a eu le temps d'en parler. Les donateurs sont aussi de moins en moins nombreux à la soutenir. Je sais qu'on avait évoqué les frères Koch, tu te rappelles, on avait dit, voilà, c'est des financiers très importants au sein du Parti républicain, ils avaient décidé de soutenir Nikki Haley, ce qui expliquait aussi qu'elle pouvait continuer sa campagne. Bon là, ils se font plus discrets, ils se sont retirés. Donc on va se demander où est-ce qu'elle peut aller. En tout cas, elle le dit à chaque fois dans ses prises de parole à la fin du vote. Je reste et je continuerai ma campagne.
Oui, et elle veut pas faire de la figuration.
Non, parce qu'en fait, elle veut être présente pendant la convention du Parti républicain. Alors, vous savez, ces conventions, c'est des grands raouts hein, qui sont organisés par les partis. La convention républicaine, elle aura lieu cette année à Milwaukee, du 15 au 18 juillet. Alors, bon, là non plus, il n'y a pas toujours un grand enjeu pendant les conventions, parce qu'on connaît déjà à l'avance l'identité du vainqueur. Mais ça lui permet quand même d'avoir une plateforme médiatique à celui qui sort en tête de la primaire, parce que ça lui permet de faire connaître son programme, de faire des grands speeches avec tous les médias à côté pour gagner éventuellement peut-être quelques points dans les sondages. Et donc on s'est partagé cette semaine un article de Politico où en fait...
Très intéressant.
Ouais, on a donc l'auteur, c'est Henry Olsen qui connaît très bien le Parti républicain, il a écrit un livre dessus, etc. Et donc il explique que le maintien dans la course de Nikki Haley, elle est peut-être liée justement à une précision dans les statuts du Parti républicain qui concerne cette convention, parce qu'en fait dans les règles du parti, il ne suffit pas seulement d'avoir quelques délégués comme ça pour pouvoir figurer comme un candidat à la convention. C'est-à-dire qu'il faut en réalité que Nikki Haley, pour qu'elle soit inscrite sur la liste des candidats, il faut qu'elle dispose d'une pluralité de délégués dans au moins 5 États. En fait, on veut vraiment que le candidat ait gagné dans différents endroits, qu'il représente une forme de pluralisme. Et c'est là, en fait, que Nikki Haley joue très gros, parce qu'elle veut pouvoir, elle, critiquer Trump à la convention, elle aurait le pouvoir de déposer des amendements pour éventuellement modifier le programme présidentiel, hein. On sait qu'il y a quand même des désaccords, notamment sur la question internationale, et donc de faire une véritable démonstration médiatique, malgré sa défaite, et je vais reprendre des mots juste avant l'épisode aussi, de jouer un peu sur l'avenir, parce qu'elle se positionne très clairement. Donc voilà, elle légitime sa candidature depuis le début sur le fait qu'elle soit la plus à même de battre Joe Biden, que la majorité des Américains ne veulent pas du match retour. Ce qui est vrai aussi, c'est que les Américains ne veulent pas de ce match-là. Et c'est tous ces arguments-là qu'elle aimerait bien pouvoir exposer à la convention.
Alors, question aussi, c'est est-ce qu'elle va y parvenir ? Enfin, est-ce qu'elle peut y parvenir ?
Bah, pour l'instant, elle a 20 délégués, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, alors pourtant elle n'a rien gagné, mais il y a quelques États qui font de la proportionnelle, donc c'est comme ça qu'elle en a obtenu. Mais la tâche va quand même s'annoncer très compliquée. Alors, pour être précis, il ne suffit pas de remporter comme ça quelques délégués comme elle le fait jusqu'à présent. Là, il va falloir gagner 5 États. Ça paraît pour l'instant peu probable. Alors, tu l'expliquais tout à l'heure, les États ont des règles électorales un peu différentes. Bon, c'est quasiment inimaginable de l'avoir gagné dans un État où seuls les membres du Parti républicain peuvent voter. Trump a une assise très très forte sur cette base-là. Très peu probable aussi pour elle de remporter un caucus. Ben, on avait expliqué les règles des caucus dans notre épisode sur l'Iowa. Voilà, il mobilise une base plus motivée, plus déterminée. Donc, elle a quand même quelques États en ligne de mire, pas ceux-là. Elle a organisé des meetings ces dernières semaines dans le Minnesota, dans le Michigan, qui sont deux États du Midwest un peu plus modérée, on va dire, où tout le monde peut voter, ce qui est très important, les indépendants et les démocrates. On peut aussi penser au Colorado, à l'Utah, État qui organisera d'ailleurs sa primaire durant le Super Tuesday. Ce sera intéressant de regarder son résultat là-bas. C'est un État où la communauté mormon est importante, et c'est peu dire qu'il ne goûte pas trop la politique de Donald Trump.
Effectivement.
Et puis, il y en a d'autres qui sont gagnables pour elle, en Nouvelle-Angleterre, là, sur la côte Est, le Maine, le Massachusetts. Et puis, une qu'on oublie aussi, c'est la capitale, Washington, qui les habitants voteront aussi. Alors, vous le savez, ce n'est pas une ville à l'échelle fédérale, mais ça comptera comme un État dans le cadre de la primaire. Et là, sa victoire semble plus qu'accessible, parce que c'est là où toutes les élites du parti anti-Trump sont rassemblées. Et en 2016, Trump avait fait un score assez catastrophique là-bas.
Oui, ça doit être autour de 10%, je crois. Oui. Donc, effectivement, elle a ses chances ici. Et puis, évidemment, le fait de rester longtemps dans la course, c'est une façon de peser sur l'avenir, parce que Donald Trump, s'il veut battre Joe Biden, il va falloir aussi, sa base, elle est là, va pas bouger, mais il va falloir aussi attirer les gens qui aiment bien Nikki Haley. Donc, c'est un réservoir important, donc il ne peut pas la balayer comme ça. Mmh. Et le fait de rester comme ça plus longtemps, ça lui permet de maintenir sa place.
Et ça l'agace beaucoup. Il en
exactement,
parle dans les
médias. Oui, c'est ça.
Bon, tu voulais aussi évoquer deux informations importantes concernant le Parti républicain. Deux actualités qui montrent que ce parti a vraiment, vraiment changé.
Oui, effectivement, c'est plus le parti du début des années 80 ou des années 60. Alors, première information, Mitch McConnell, qui quitte...
connu par tous les Français.
Oui, effectivement, Mitch McConnell, tout le monde. Il y a Obama et Mitch McConnell, voilà. En fait, pour les Français. Mitch McConnell, c'est en revanche... C'est une figure politique américaine. C'est toujours le chef de la majorité, de la minorité au Sénat, donc le chef des Républicains au Sénat. C'est quelqu'un qui pèse sur la vie politique et il met fin au plus long mandat d'un chef de parti dans l'histoire du Sénat. Alors, c'est un événement. Bon, alors, c'est pas une très grande surprise. Il a 82 ans, il commence à avoir des soucis de santé.
Il aurait pu se présenter à la présidentielle.
À 82 ans, oui, c'est tout à fait, c'est dans l'âge. Hein. On a quand même des hommes politiques qui sont encore plus vieux que Joe Biden. Il a eu quelques soucis de santé, avec des absences aussi, ouais. Et des absences qui étaient assez terrifiantes, où en pleine séance, il s'est bloqué, comme ça, on pensait même qu'il avait fait une attaque.
Et c'était impressionnant, les images ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, où en fait, il se freeze complètement pendant une conférence de presse.
Et c'est quelqu'un de son staff, qui vient le sauver, entre guillemets, et qui le prend comme ça, pour dire de sortir. De scène, c'était assez fou. Donc c'est assez normal qu'il laisse la main quand même. Mais c'est un personnage qui est important parce que il est détesté. C'est pas pour ça qu'il est important, mais c'est pour ça qu'il pèse aussi. C'est que il a pourri, on va dire, le mandat de Obama. Il est détesté à gauche pour ça, parce que dès qu'il mettait en place une politique, il la contrait. C'est quelqu'un de très fin politiquement, qui connaît parfaitement les arcanes du Congrès. On parle beaucoup de Donald Trump, qui a nommé 3 juges à la Cour suprême. Effectivement, c'est lui, mais c'est aussi Mitch McConnell qui s'est opposé à la nomination d'un juge à l'époque de Obama. Donc en fait, c'est quelqu'un qui tire beaucoup de ficelles. Il est reconnu comme un vieux renard de la politique, très habile, mais il ne s'entendait pas avec Donald Trump aussi. Et ça, c'est un problème aussi quand on veut en ce moment durer en politique côté républicain. Il méprise Donald Trump, il le prend pour un abruti, il l'a plus ou moins dit. Il était de plus en plus du coup isolé au sein du parti.
Il avait quand même sauvé à plusieurs reprises dans les procédures d'impeachment.
Exactement, et en fait c'est là le problème, c'est qu'il aurait pu aussi... c'est peut-être la personne qui aurait pu faire barrage à Donald Trump. Il avait l'occasion de l'affaiblir s'il avait voté pour la destitution, notamment lors de la prise d'assaut du Capitole. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait sans doute par, fidélité au parti.
Ça montrait justement ce que tu dis, l'emprise de Trump, parce que il a fait un discours assez poignant d'ailleurs sur la responsabilité qu'avait Trump.
Ouais.
Et au moment du vote,
il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Il n'a pas appelé à voter parce qu'il avait avec lui, il aurait pu emmener une cinquantaine de sénateurs, peut-être pas une cinquantaine parce qu'ils sont 50, mais il aurait pu amener 10-15 sénateurs assez facilement, plus en rajoutant aux démocrates. Enfin, il y avait une chance pour que ça passe et il n'a pas pris. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Donc maintenant, il pleure un petit peu en disant Trump, il change le parti, ce qu'il fait, c'est fou. Mais il y a eu plusieurs occasions, comme après les midterms, on avait déjà parlé, il était un peu affaibli et personne n'a pris sa chance. Donc voilà, McConnell, qui avait été élu au Sénat en 1984, tire sa révérence. Et deuxième information, cette fois qui concerne toujours le Parti républicain, c'est Donald Trump qui souhaite remodeler ce qu'on appelle le Comité national républicain. C'est l'organe, en fait, directeur du parti. Et il veut un trio à sa botte, dont Lara Trump. Voilà, donc Lara Trump, qui est en fait l'épouse, sa belle-fille, c'est l'épouse de son fils Eric. Et elle voudrait qu'elle soit vice-présidente, co-présidente, c'est pas très clair. Bon, à partir du moment où il veut, elle va sans doute l'être. Et l'actuelle présidente, Rona McDaniel, était plutôt proche, hein, pourtant, de Donald Trump aussi, mais elle était parfois opposée à lui. C'était opposé sur des choses, on va dire, assez basiques, parce qu'elle avait refusé, paraît-il, d'annuler tout simplement les primaires, parce que bah, Donald Trump lui avait demandé d'annuler les primaires.
Ah oui.
Ouais. Donc elle avait dit, bah, c'est peut-être un peu gros quand même.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Ouais, voilà. Donc, mais il n'avait pas aimé. Et bah, la conclusion, je l'emprunte au New York Times, qui dans un article soulignait que Donald Trump achève de dévorer ainsi le Parti républicain.
Eh ben, on va voir justement s'il va dévorer le Super Tuesday qui va avoir lieu donc le mardi 5 mars. Évidemment, on vous retrouvera dans les prochaines semaines pour un épisode où on débriefera évidemment tout ça. Le mardi 5 mars, donc un des jours les plus importants de la primaire, côté républicain, côté démocrate. On n'a pas voulu faire du sur-teasing, mais bon, je pense qu'on est quand même, on est revenu dans les grandes largeurs.
C'est intéressant quand même.
Ouais, bien, merci beaucoup Lionel pour ces analyses.
Et puis merci à toi.
On se retrouve très vite.
Bye bye. Bye.